Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Le 7-9-30 sur France Inter.
Et à 9h08, Sonia De Villers, votre invitée, nous emmène dans l'espace.
Voilà, et l'affaire commence sur un atoll absolument perdu et paradisiaque. Bonjour Joël Stolz.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes journaliste, vous vivez entre la France et l'Autriche, vous avez très très bien longtemps travaillé en Afrique, connaissez très bien l'Afrique. Qui rencontrez-vous sur cet atoll ?
Alors, je rencontre les gens que j'avais en fait connus à Tripoli au milieu des années 90.
En
c'est-à-dire,
Libye.
Voilà, en Libye, Lutz et Suzy Kaiser. Suzy Kaiser était la troisième épouse de Lutz. Je ne connais pas les deux précédentes, mais j'ai bien connu celle-là. Et donc, je les ai revus là où il s'était retiré pour la fin de leur vie et là où il est mort d'ailleurs, sur un petit atoll minuscule des îles Marshall qui sont au milieu du Pacifique.
Voilà, où ils vivaient quasiment nus. Voilà, des gens qui ont connu toute la jet set, les gens les plus puissants, les plus argentés du monde. Ils ont eu une vie totalement dingue. Ils vous l'ont raconté. Ça a été un premier reportage pour vous avant de décider d'en faire un livre qui s'appelle Le Projet Votan et qui est paru au Seuil. Lui, en quelques mots, Joël Stolz, c'est une sorte d'Elon Musk avant l'heure.
Oui, je crois que ça a été sa tragédie, c'est-à-dire il avait la même idée au fond qui était de faire baisser les coûts pour lancer des satellites, pas des missions habitées bien sûr, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et il avait l'habitude de dire la NASA utilise des Rolls-Royce pour transporter des sacs de ciment et il faut faire beaucoup plus simple. Donc c'était ça son idée, mais il n'a pas compris que
il faut faire beaucoup plus simple et il faut savoir recycler les matériaux de l'espace.
Oui, il faut savoir recycler et il faut aussi utiliser des choses qui sont produites industriellement, donc qui coûtent beaucoup moins cher que ce qui est produit pour la NASA, bien sûr, les prototypes. C'était ça son idée, mais il n'a pas compris que le contexte international ne s'y prêtait pas du tout.
Allez, on se replonge dans la conquête spatiale et on va vous raconter ensemble l'histoire complètement folle de cet ingénieur allemand assez allumé, qui se sera coquiné avec les pires dictateurs africains pour réaliser son rêve de l'espace. Le président Kennedy en 1962.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept and one we intend to win.
Voilà qui a bercé la jeunesse allemande de Lutz Kaiser.
Oui, et il y a eu une grande incompréhension de son père. Il a pleuré quand Kennedy a été assassiné à Dallas. Oui. Et son père lui disait, mais comment peux-tu pleurer pour un président américain? Parce que pour les Allemands, bien sûr, les Américains, et c'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui les avaient occupés, ceux qui les avaient humiliés d'une certaine manière, et beaucoup moins, ils ont beaucoup moins violé que les Soviétiques, je dois dire. Mais c'était les ennemis d'une certaine manière, en tout cas des rivaux, et nous sommes beaucoup plus raffinés que ces gens-là, ces mâcheurs de chewing-gum, c'était quand même l'idée, beaucoup.
Voilà. Alors, le jeune Lutz Kaiser va se former auprès des pionniers de l'espace, de la recherche spatiale. Ce qu'il faut dire, parce que c'est quelque chose qui revient tout au long de votre enquête, Joël Stolz, et de votre livre qui se lit totalement comme un thriller assez déjanté, c'est qu'en réalité, des anciens nazis, on les retrouve un peu partout dans l'aéronautique à cette période-là.
Oui. Pourquoi ? Parce que quand les Américains ont découvert les laboratoires secrets des nazis, dans la banlieue de Braunschweig, ils étaient sidérés. Ils ont dit, ces gens ont 25 ans d'avance sur nous. Et évidemment, ils pensaient déjà à la rivalité avec les Soviétiques. Et donc, le ministère de la Défense américain a eu le dessus, malgré toutes les objections formulées par le département d'État ou bien par des gens publiquement comme Einstein, qui trouvaient immoral d'engager des gens qui avaient travaillé pour Hitler. Donc, c'est relativement connu que les Américains Américains en ont embauché 1600, y compris des gens qui avaient mené des expériences sur des êtres humains. Il faut donc, il y a un livre américain que je cite tout à fait à la oui. fin du livre, donc qui s'appelle Operation Paperclip. C'était le nom de cette opération, c'est l'opération Trombone. Mais ce qui est beaucoup moins connu, alors les Soviétiques ont emporté tous ceux qui ont emmené avec eux tous ceux qui n'ont pas pu faire autrement. Mais les Français, c'est beaucoup moins connu, sauf de quelques spécialistes, en ont recruté quelques 160 en les cachant un peu. Et l'un d'entre eux, qui travaillait sur un prototype d'avion à réaction auquel finalement les militaires français ont préféré le Mirage, Eugen Sanger, a été le professeur de Lutz-Kaiser à Stuttgart.
Et vous avez intitulé votre livre « Le projet Votan ». Mais alors Lutz-Kaiser a voulu lui-même baptiser ses opérations « Projet Votan » et puis il s'est rétracté. Pourquoi ?
Alors, ça, c'est une supposition de ma part. Je crois que les gens autour de lui lui ont dit non, c'est pas une bonne idée. Parce que tout le monde percevait, évidemment, le fait qu'il ait mis comme président du conseil d'administration un type qui s'appelait Kurt Debus, en qui il ne voulait voir qu'un héros de l'espace, quelqu'un qui avait été pendant 10 ans le directeur de Cap Kennedy, qui était la base de lancement de la NASA à l'époque. Donc, il ne voulait voir que ça. Mais quand on lit aujourd'hui la notice Wikipédia, c'est évidemment plus facile. Et puis, surtout, quand on s'intéresse à ces choses, on voit qu'il a fait du militaire les trois quarts de sa carrière. Et bien sûr, d'abord pour Hitler. Alors lui, il était nazi, un nazi convaincu. Mais Lutz-Kaiser ne voulait pas le voir. Et donc, je pense que son entourage lui a dit « Non, c'est peut-être pas une très bonne idée. » Mais il trouvait que c'était une idée géniale. Entre autres parce que les Américains utilisent des noms de fusées, des noms de dieux ou de déesses du panthéon romain.
Et Votan, exemple. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, Votan, c'est le nom du dieu de la victoire dans le panthéon germanique. Et l'idée de Kaiser, c'était « Mais pourquoi nous, on ferait pas pareil ?»
C'est ça, parce qu'en fait, les nazis se sont abreuvés de cette mythologie-là, et donc ça fait mauvais effet. On va vous faire écouter la voix de Lutz-Kaiser, puis ensuite vous allez nous raconter comment Lutz-Kaiser est arrivé en Afrique.
Notre étude de marché montrait qu'il y a un besoin pour les petites fusées, par exemple pour les applications des satellites de télécommunication pour les petits pays, et les fusées moyennes pour les applications des moyens satellites de télédétection, observation, reconnaissance, et après au milieu de la prochaine décade, des grandes fusées jusqu'à 10 ou 15 tonnes dans l'orbite basse pour des grands satellites de télédétection, de recherche de ressources minérales, etc.
Lutz-Kaiser cherche de l'espace.
Oui.
Il a besoin d'espace. Avant d'envoyer ses engins dans l'espace, avant de faire décoller une fusée, il a besoin de territoires immenses et qui ne soient pas peuplés. Il va s'installer au Zaïre et c'est Mobutu qui va lui donner... le premier, les moyens de réaliser son rêve.
Alors Mobutu était à l'époque certainement au sommet de son prestige international. On le sait très peu aujourd'hui, mais avant il avait quand même rendu visite à Mao, il avait rendu visite à Kim Il-sung en Corée du Nord, enfin etc. Et donc il était un peu au sommet, il était le seul chef d'État africain je crois invité au sommet de l'OPEP à Alger. Donc il était au sommet de son prestige et il pensait encore avoir de l'argent. Ça n'a pas été le cas après. Et bien sûr, qui a introduit Kaiser donc au Zaïre, qui avait effectivement des territoires immenses et peu peuplés à proximité de l'équateur, ce qui est très important pour les gens qui lancent des fusées, c'était bien sûr les gens qui avaient organisé le fameux match, le match du siècle entre Mohamed Ali et Foreman. Et donc, les gens qui avaient organisé ce match ont introduit Lutz-Kaiser auprès de Mobutu, et Mobutu a donné son accord, selon Kaiser, en une demi-heure. Enfin, il avait certainement autre chose à faire aussi, mais il est très rapidement. Ça le séduisait, l'idée d'avoir deux satellites, un satellite d'observation et un satellite de télécommunication.
Et ça marche. Et ça marche. Les premiers essais sont relativement concluants. Enfin, il y a évidemment, on passe par par toutes les étapes possibles et imaginables, mais quand même, on réussit à faire décoller quelque chose.
Alors oui, et là, c'est le moment.
Il y a quand même des proto-fusées qui sont parties d'Afrique.
Absolument. C'était bien sûr des essais, parce qu'il faut faire plein d'essais avant de lancer un satellite. Et donc, le premier essai réussi, qui était en début 77, a inquiété un peu toutes les grandes puissances. Elles n'étaient pas très nombreuses à l'époque, et elles avaient avait un quasi-monopole sur le spatial. Donc, ce qui a inquiété d'abord, alors ça a surtout inquiété les Soviétiques et leurs alliés, qui étaient très nombreux à l'époque en Afrique, surtout autour du Zaïre. Et il faut se souvenir qu'il y avait le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, l'argument selon lequel cette base spatiale servirait peut-être un jour à lutter contre un régime qui serait post-apartheid en Afrique du Sud, avait quelque chose d'assez
convaincant.
Parce
que Lutz Kaiser a refusé toute sa vie de travailler pour les militaires. Il n'empêche que c'est l'angoisse, c'est-à-dire qu'on va envoyer des engins dans l'espace, on prétend qu'on va mettre sur orbite des satellites, mais qu'est-ce que peuvent transporter ces engins et pourquoi pas des armes, évidemment.
Oui, c'est un peu...
C'est-à-dire, quand on commence à voir Mobutu lancer des fusées depuis le Zaïre, c'est quand même une panique généralisée.
Alors, c'était une panique généralisée. Tout le monde s'est demandé ce que c'était, ce qu'il fabriquait. Et bien sûr, l'idée de Lutz Kaiser, qui avait une certaine naïveté, qui était certainement un excellent ingénieur, c'était, mais Mobutu, c'est un allié de l'Ouest, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et de fait, il n'y a pas eu de gros problèmes jusqu'au moment où il est allé, ayant été mis dehors par Mobutu, sous pression de Giscard, après l'affaire de Kolwezi. Donc Giscard avait sauvé la tête de Mobutu en faisant sauter la Légion sur Kolwezi. Et du coup, Mobutu ne pouvait plus lui refuser.
Valéry Giscard d'Estaing s'occupe de mettre fin à cette aventure spatiale africaine. Et évidemment, les hommes de Mobutu récupèrent toutes les installations, tout est préempté, tout leur est arrangé. Ils ont perdu une fortune dans cette histoire.
Alors, c'est surtout quand ils sont allés en Libye.
On en parlera après de la Libye.
En Zaïre, au Zaïre, ils ne pouvaient plus lancer de fusée.
Non.
Donc Mobutu et son ministre des Affaires, enfin le type qui était le conseiller qui l'avait introduit auprès de Mobutu, Boula, donc leur ont dit clairement non. Plus de fusées. Mais le reste, vous pouvez continuer à faire des affaires. Donc, ils ont gardé en fait une base assez longtemps dans cet endroit du Zaïre, qui est complètement dingue. Si on veut avoir une idée, il faut voir le film d'Oliver Schwem que Arte a remis en ligne et qui s'appelle donc Fly, Rocket, Fly. Je ne sais plus quel est le titre français. Et Oliver est tombé sur les films qui avaient été tournés au Zaïre. Et donc, c'est vrai que c'est un film assez irrésistible, surtout pour un homme d'image.
Dans des paysages absolument somptueux. Avec Joël Stolz, il est 9h20, vous écoutez France Inter. On va vous raconter comment cette aventure s'est déplacée en Libye jusqu'à la rencontre du colonel Kadhafi. Parce que c'est l'histoire aussi d'un homme qui a été presque amoureux de Kadhafi.
Ne rien devoir, ne rien vouloir. Ne rien raconter, seulement écouter. Dormir dans l'après-midi, être réveillé avant minuit, et tisser des chansons avec toi à ma côté. Je pense que ce serait ma vie préféré. Et parfois chantonner, et si deux mots se marieraient, être surpris, être émerveillé, ce hasard entre futur et passé. Je pense que ce serait ma vie préférée. Je pense que ce serait ma ma vie préférée.
Stéphane Escher, ma vie préférée.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
Cet homme est-il dangereux ? C'est la question des questions. Charlatan pour les uns, génie pour d'autres, Kurt Kaiser est la figure la plus controversée des lancements dans l'espace. Le fait que les ogives des fusées de Kurt Kaiser puissent aussi renfermer autre chose que des satellites de télécommunications, des bombes ou des charges nucléaires par exemple, angoisse pourtant tous ceux qui s'interrogent sur le mariage paradoxal entre un ingénieur allemand obsédé par l'idée de prouver qu'il a raison et un Kadhafi imprévisible. C'est peut-être parce qu'ils savent qu'un scientifique est souvent prêt à s'allier avec le diable pour appliquer et vérifier ses théories.
Et oui, c'est un pacte avec le diable que raconte le projet Votan, qui est votre livre, Joël Stolz, et ça vient de sortir au Seuil. On s'est dit que c'était la semaine du lancement de la fusée Ariane, qui va décoller vendredi, en tout cas, on l'espère, et que c'était le bon moment pour raconter cette odyssée spatiale totalement allumée et pourtant bien réelle, mal connue, mais bien réelle. Nous voici au tout début des années 80, les Kaiser se font expulser du Zaïre, en tout cas ils ne peuvent plus y pratiquer leurs expériences spatiales, et ils vont chercher un autre espace. Alors ils ont pensé à l'Argentine, ils ont pensé au Maroc, le Sahara leur semble un bon endroit pour lancer des fusées, et les voilà qui atterrissent en Libye. Il faut raconter d'abord l'histoire humaine qui lie Lutz Kaiser et son épouse à Kadhafi.
Oui, alors lui était le premier, parce qu'il ne la connaissait pas encore quand il est allé la première fois en Libye, mais il a été complètement charmé par Kadhafi, qui était tout à fait capable d'être un grand charmeur et qui lui a raconté exactement ce qu'il voulait entendre. Oh, c'est passionnant la recherche spatiale. Probablement, Kadhafi s'intéressait pas plus que ça au spatial, mais il était beaucoup moins franc que n'a été plus tard Saddam Hussein, avec qui donc Lutz Kaiser a aussi eu une entrevue, qui a carrément dit « Est-ce que vous pouvez envoyer des charges nucléaires sur Téhéran ?»
Donc, merci monsieur, et ben dans ces cas-là, nous ne ferons pas affaire.
Oui, alors moi, c'est ma conviction personnelle. Certains, il y a des gens de l'Otrag, c'était l'entreprise fondée par Lutz Kaiser, qui pensent qu'il n'y avait que le fric qui l'intéressait et que donc il a accepté de travailler pour les militaires libyens. Moi, je n'en suis pas aussi sûre parce que je l'ai connu en Libye et revu au Marshall, et je crois qu'il avait connu personnellement des gens qui avaient eu affaire au Mossad, des gens qui ont travaillé pour Nasser au début des années 60 et qui ont reçu des lettres piégées, parce que le directeur du Mossad à l'époque, il a commencé par lancer des avertissements, et puis quand ces avertissements n'ont pas été compris, il a lancé des lettres piégées. Donc, comme il avait connu personnellement ces gens, et qu'en plus le Mossad n'hésitait pas à éliminer des gens qui leur paraissaient représenter un danger, je crois qu'il avait peur de ça, et il était surtout obsédé par l'idée d'avoir raison. Donc, quand Kadhafi a été assez malin pour lui dire « Voilà, c'est formidable, etc. Et il y a une base dont on a un grand désert », ce qui était vrai.
On le met à votre disposition.
On le met à votre disposition. Il y a un endroit idéal qui est dans une ferme abandonnée par les Italiens, en fait, quand les Italiens ont été foutus dehors par la Libye. Voilà, et c'est pour vous. Alors, évidemment, il a trouvé que c'était idéal. Il ne s'est pas posé de questions sur les conséquences. Et en fait, tout le monde à ce moment-là s'est inquiété, en premier lieu, bien sûr, les Américains. Il faut se souvenir que...
De toute façon, il s'est posé très peu de questions. C'est-à-dire que plus il enchevêtre son projet avec le destin de Kadhafi, et plus la Libye tombe sous le coup de la terreur exercée par Kadhafi et ses hommes, moins les Kaiser veulent voir la réalité du régime.
Oui, alors il faut dire que le régime cachait beaucoup cette réalité. Ouais. Bon, beaucoup de Libyens savaient très bien à quoi s'en tenir. Ils parlaient pas volontiers. Ils faisaient très attention à ce qu'ils disaient et aux possibilités de microphones ou d'espions, etc.
Mais ils sont les contemporains des premiers massacres monstrueux dans les prisons libyennes, des règlements de compte, des arrestations arbitraires. Ils sont les contemporains de tout ça, les Kaiser.
Oui, ils sont les contemporains, mais ils ne veulent pas le voir. Et alors, elle a eu une... on peut dire une histoire d'amour avec Kadhafi. Mmh. Et donc, c'est vrai que ça humanise un peu le personnage qu'on a connu comme un monstrueux à la fin de sa vie. Je veux dire, celui qui a dit, il y aura, donc, dont le fils a dit, il y aura des rivières de sang, etc. Vous osez vous rebeller contre moi qui suis la révolution, etc. Mmh.
L'incarnation. Mais Kadhafi a été amoureux de Madame Kaiser.
Alors, je ne sais pas si lui a été amoureux.
Elle a été amoureuse de lui et ils ont eu une histoire.
Voilà. Alors, je pense qu'ils ont eu une histoire. Il lui a offert, ça c'est, moi je le savais d'une certaine manière, elle était réticente pour le dire, ce qui finalement ajoute à la crédibilité, parce qu'elle voulait épargner la mémoire de son mari. Mmh. Mais de fait, il y a eu pendant, j'imagine, quelques mois, pas plus, une sorte de couple à trois. Mmh. Et Kadhafi a toujours protégé d'une certaine manière Susi Kaiser, notamment quand les Kaiser ont eu de sérieux démêlés avec les militaires libyens.
C'est ça, puisque ça se termine où tout est préempté, hein. Ils vont tout perdre et ils vont attendre désespérément pendant des années de récupérer leur argent, de récupérer leurs fonds, d'être remboursés, d'être dédommagés. L'argent ne viendra jamais, donc tout ça finira en peau de chagrin en réalité. Ils finiront leur vie dans cet atoll à l'autre bout du monde, mais tous ces projets sont partis en fumée, il n'en est rien resté, Joël Stoltz.
C'est vrai.
De leurs inventions.
Alors, ils ont quitté la Libye seulement à l'automne 2004, donc je pense qu'ils ont à ce moment-là jeté l'éponge, ils avaient un petit peu d'argent, mais ils n'avaient évidemment pas récupéré les fonds, parce que le spatial, ça coûte très cher. Et en plus, ils pensaient que les militaires libyens leur devaient beaucoup d'argent pour notamment des casernes, des divers travaux qu'ils avaient réalisés, qu'une entreprise qu'elle dirigeait, avait réalisé. Donc, quand ils ont vu qu'ils ne récupéraient pas cet argent, ils sont partis. Mais ils s'étaient grillés, évidemment, ils ont essayé de partir avant. Mais ils s'étaient grillés auprès d'un certain nombre de gouvernements alliés des États-Unis,
évidemment. Merci beaucoup, Joël Stoltz. Le projet Votan paraît au seuil et c'est donc l'histoire folle de ces fusées africaines qui ne sont jamais quand même vraiment montées très haut.
Merci, Sonia.